des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M, qui n'est pas toute seule une fois encore pour vous présenter des livres plein les oreilles. À cette occasion, nous aurons l'occasion d'aborder beaucoup de titres. Nous avons énormément de livres à vous suggérer. Je reçois d'ailleurs pour cela Huguette Roussel. En fait, elle sera au téléphone d'ici quelques minutes. Je suis très heureuse vraiment de recevoir Anaïs Barbeau-Lavalette qui a écrit ce livre que vous avez déjà été très très nombreux à lire et à adorer, qui est La femme qui fuit. Bonjour Anaïs,
bonjour.
Elle est déjà en studio. Et puis aussi Jocelyne Allary, bénévole depuis, ça fait combien de temps bénévole?
4 ans et demi maintenant.
Ah quand même, hein. Donc vous en avez lu quelques livres
ça
bénévolement
va,
ici. Malheureusement, c'est pas vous qui avez lu le livre.
Hélas, mais hélas, je l'ai lu à la maison.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui,
alors je reçois tout ce beau monde à l'émission aujourd'hui et on va commencer avec Huguette Roussel. Bonjour Huguette.
Bonjour jeune fille.
Oh, j'aime ça, me faire appeler jeune fille. Écoutez, là vraiment, c'est absolument délicieux. Vous pouvez me servir ça à toutes les sauces quand vous voulez.
D'accord.
Chère Huguette, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais avant d'accueillir Anaïs Barbeau-Lavalette, alors qu'il sera question de ce livre qu'elle a écrit, La femme qui fuit, vous allez nous évoquer une femme blessée, le livre de Marina Carrère d'Encausse.
Oui, effectivement.
C'est un livre que vous ne connaissiez pas, hein, il y a encore quelques jours, et puis... vous saviez...
je l'ai lu en express.
Ah, en express, OK.
Oui, pour l'émission d'aujourd'hui, parce que quand j'ai reçu l'appel, l'invitation du Canal M, mm-hmm. J'avais des livres en réserve, mais pas de coup de cœur, vraiment. Donc, vous m'aviez suggéré un titre que j'ai pris.
Oui.
Et que j'ai lu pendant mon insomnie.
Oui, OK. Et est-ce que ça vous a aidé à retrouver le sommeil ou pas?
Pas vraiment.
Non, c'est ça. Ça me surprendrait beaucoup. Hein. C'est pas un livre facile. Hein.
Non. C'est un livre de pouvoir, mais pas, mm-hmm. pas du pouvoir des femmes, n'est-ce pas?
Non.
C'est du pouvoir des hommes parce que ça se passe dans un pays où je ne voudrais pas vivre, ça c'est certain.
Mm-hmm.
Mais
c'est le Kurdistan, hein?
C'est au Kurdistan. Alors,
du côté irakien.
Oui. Mm. Et c'est une dame qui s'appelle Fatima,
mm-hmm.
et qui s'en va, et qui se réveille à l'hôpital parce qu'elle a été brûlée. Je sais pas, on ne dit pas à combien de degrés, par contre, mais c'est écoutez, on lui transfère de la peau.
Donc, oui, non, là, on sait, oui,
c'est ça. C'était à l'extrême. Mmh. Et évidemment, c'est toujours au visage qu'on affecte ces mutilations-là pour pas que les femmes soient reconnues.
Ah oui.
Pour qu'elle soit méprisée au plus haut degré.
Mmh. Parce qu'évidemment, on fait passer ça pour un accident domestique. Hein?
Évidemment. Mais on découvre au fil du temps que ce n'est pas ça. Mmh. C'est évident que je ne vous dirai pas qui a fait ça.
Mmh.
Mais c'est surprenant dans le sens qu'au début, on pense que c'est un homme.
Mmh.
Et on pense que c'est... Comment je vous dirais? C'est...
Oui, parce qu'on parle d'un crime d'honneur, alors
oui,
évidemment,
oui,
ça rejaillit automatiquement et toujours, c'est ça, mais pas forcément. Et c'est quelqu'un, en plus, elle est, au moment où cela arrive, elle est enceinte, hein?
Oui, elle est enceinte, sauf que cependant qu'elle ne veut, au début, elle ne veut pas le voir.
OK.
Elle méprise l'enfant parce qu'elle le rejette.
Mais oui, bah parce que c'est le bébé de la honte, en quelque sorte, c'est ça?
Effectivement, oui. C'est le bébé de la honte et encore, c'est quelqu'un d'autre de la famille qui a fait ça.
Alors, on suit cette femme-là, non seulement dans sa famille, mais aussi...
À l'hôpital.
À l'hôpital, dans le village aussi, lorsqu'elle revient, hein, c'est ça. Parlez-nous de ça un petit peu.
Ben, disons que c'est drôle parce que sa famille... la renie dans un sens parce qu'il y a seulement que sa fille aînée qui parle d'elle.
OK. Pour les autres, elle n'existe plus.
Elle n'existe plus. Mm-hmm. Et sa fille aînée se souvient d'elle. Et elle veut la revoir parce qu'elle s'ennuie. Elle a 8 ans. Donc, 8 ans, on n'oublie pas sa mère du jour au lendemain comme ça.
Non.
Et on ne sait, elle ne sait pas qu'elle est à l'hôpital. On ne lui dit pas. Et quand elle s'informe auprès de sa famille, on lui dit, tu n'as pas d'affaire à savoir. Ben, c'est pas dit comme ça, là, mais on la tient dans l'ignorance complète. Et la fille aînée, elle parle de sa mère à ses autres sœurs. Elle a deux sœurs en tout.
Okay.
Deux sœurs et un frère qui est mort. Donc, elle veut pas que ses sœurs oublient sa mère. Parce qu'elle ne sait pas si elle va la voir.
Mm.
Donc, il y a de l'ignorance. On veut tenir enfermé dans du souvenir de leur mère. Elle est vraiment plus là. Dans cette maison, il y a 8 personnes, sauf la mère qui est à l'hôpital, et il n'y a seulement qu'une personne qui en parle.
OK.
Sur 8. Donc, on veut effacer son souvenir.
Oui, mais complètement. Oui. Et c'est quelqu'un, je pense, à un moment donné, qui va irradier beaucoup d'amour, hein, ne serait-ce que pour ce petit enfant qui est né et elle ne veut pas qu'il vive uniquement dans la laideur, hein, au témoin d'un doute.
Non, parce que au fil du temps, on la voit à l'hôpital. Mm-hmm. Elle passe des mois à l'hôpital.
OK.
Et il y a des hommes, c'est deux hommes qui prennent soin d'elle, deux médecins. Mm-hmm. Et... elle n'a pas de... On penserait qu'elle voudrait fuir les hommes parce que tout au long du livre, on ne sait pas encore.
Non, c'est ça.
Donc, dans ma tête, moi, je me dis, mon Dieu, mais elle ne voudra pas que ce soit un médecin qui prenne soin d'elle.
Mm-hmm.
Et effectivement, le regard des médecins est très doux, très minutieux, très auprès d'elle. Et puis elle reprend confiance dans sa guérison.
Le regard du médecin, puis le regard justement de sa fille. Il y a un très beau passage, si je peux me permettre. La fille qui s'appelle Farah, donc qui vient rejoindre à un moment donné, je ne sais pas si c'est pour la première fois ou peu importe, sa maman à l'hôpital. Alors, et ça, c'est écrit ainsi, Farah s'était avancée, toute tremblante. Parvenue à la hauteur de sa mère, elle l'avait regardée et ce que Fatima avait lu sur les traits de sa fille l'avait émerveillée. Ce n'était pas de l'horreur, mais du chagrin, simplement du chagrin. Des larmes avaient coulé sur son visage et elle avait juste dit « Pauvre maman, comme tu as dû souffrir. »
Oui, puis il y a un lien, une grande, très, très grande tendresse qui
entre ces deux-là.
Entre ces deux-là, puis la jeune fille la comprend sa mère dans le silence. C'est très beau. C'est très,
Et vous savez, pendant que vous nous parlez, Huguette, je jette un petit regard à Anaïs Barbeau-Lavalette parce que on est dans un univers absolument très, très différent de l'univers du livre d'Anaïs, mais c'est un peu le contraire qui se passe dans le livre dont vous nous parlez et du livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, dont on va parler un petit peu plus loin. C'est-à-dire que dans votre livre, Anaïs, votre grand-mère à qui vous avez donné une histoire, on va raconter pourquoi, etc., elle quitte ses enfants, elle se sépare, et c'est elle qui revient vers les enfants. Alors que là, c'est vraiment la fille aînée qui, elle, permet à cette mère-là, finalement, de s'accrocher à la vie, si je comprends bien. Je n'ai pas l'impression que si la fille aînée s'était accrochée à sa maman, celle-ci aurait continué à se battre, non? Est-ce que je fais erreur?
Je suis pas dans la tête de l'écrivaine.
Non, je ne sais pas. C'est parce que peut-être que ça aurait pu être écrit comme ça. Vous savez, malheureusement, je voudrais tellement lire tous les livres dont nous allons parler à cette émission, mais vous savez que ce n'est pas toujours facile, quoi.
Non, mais il y a tellement de livres.
Mm-hmm.
De livres. Mais ce livre-là, ça m'a bouleversé dans un sens. C'est sûr que nous, en Québécois, ce que nous sommes, de souche et d'autres pas, ça dépend. C'est évident que quand je lis ça, je me dis, waouh, on est bien aussi au Québec. Là. On n'a pas à subir ça. On n'a pas à être persécuté à ce point-là. Ça n'a pas de sens. Puis surtout quand c'est quelqu'un de la famille qui le fait, c'est encore pire.
Oui. Oui, oui. C'est là où tout d'un coup, le combat des femmes prend encore une dimension.
Toute sa place, oui.
Hein, et toute sa place.
Ah oui, 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 vraiment. Oui.
Huguette, c'est un... Bon, bah, écoutez, je suis très heureuse de vous avoir demandé de lire ce livre-là pour nous, Une femme blessée, et un livre qui ne nous laisse pas sans quelques meurtrissures, hein, non plus. C'est un livre qui reste gravé longtemps dans nos mémoires. Je rappelle le nom de celle qui l'a écrit, ce livre, Marina Carrère d'Ancos. Carrère comme Carrère, C-A-2-R. E-R-R-E, et puis d'Ancaus, d'apostrophe E-N-C-A-U-2-S-E, qui est la fille, d'ailleurs, de celle qu'on appelle la secrétaire perpétuelle, Madame Carrère d'Ancaus, de l'Académie française. Voilà.
Que vous êtes donc bonne, vous.
Ah ben, écoutez, non, c'est parce que, vous savez, les femmes à l'Académie française, je pense qu'il n'y en a que deux, alors c'est difficile de se souvenir de leur nom. C'est encore un milieu d'hommes, que voulez-vous que je vous dise.
Encore et toujours.
Mais c'est ça, mais enfin, au moins, tant qu'on ne subit pas ce qu'a vécu cette femme, Fatima, je vous remercie beaucoup parce que, évidemment, roman, mais tristement, ce n'est pas un roman pour énormément de femmes qui vivent encore ça au quotidien. Alors, Huguette Roussel, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce livre, Une femme blessée.
Tout le plaisir est pour moi.
Au revoir, Huguette, au plaisir.
Au revoir.
Elle s'appelle Anaïs Barbeau-Lavalette et elle a écrit ce livre, La femme qui fuit, un livre dont personnellement j'ai beaucoup entendu parler autour de moi. Je ne parle même pas des médias, je parle du nombre de gens qui l'ont lu et qui ont adoré ce livre. Bonjour Anaïs Barbeau-Lavalette. Bonjour. Quand on s'appelle Barbeau, une chance qu'on est une artiste, non? Parce que c'est comme, c'est un héritage incroyable que vous avez.
Grâce à mon grand-père, Marcel Barbeau.
Ben oui, c'est ça. Ben, entre autres, mais...
Que mes enfants disent, il faisait des beaux Barbeaux, grand-papa Barbeau.
Oui, parce qu'il était ce qu'on appelait un peintre automatiste, hein, c'est ça.
Ouais.
Et puis, vous avez... Donc, il a été marié avec cette femme, Suzanne Meloche, dont il est question. C'est la femme qui fuit et qui fuit en laissant Marcel Barbeau en plan, c'est le cas de le dire, et leurs deux enfants. Que sont Mousse, votre maman, et François. Alors, il y a une part de fiction totale ou c'est réellement... Parce que je sais que vous avez fait appel à une détective hein, qui est allée fouiller dans la vie de cette femme qui a fui, parce que sinon, vous n'en saviez pas grand-chose.
En fait, c'est vraiment un mélange de ce qu'on a pu trouver avec des bribes de correspondance.
Ouais.
Des archives, des témoignages. J'ai rencontré beaucoup de ses amis, beaucoup de ses amants, parce qu'elle était une femme à homme. Donc, il y a beaucoup de vrai et beaucoup de liberté que je me suis donnée aussi. C'était aussi mon plaisir, c'est-à-dire qu'il y a des segments de sa vie qui étaient très, très documentés et d'autres presque pas. Mm-hmm. Et donc là, je me suis permis de m'inventer la grand-mère que j'ai jamais eue, en fait.
Et alors, cette grand-mère qu'on hait à l'occasion... qu'on adore à l'occasion, vous, personnellement, c'est une femme... Parce que, honnêtement, j'ai eu du mal dans le livre à savoir exactement quel type de sentiment vous aviez envers elle. Bon, d'abord, vous la tutoyez hein, tout le temps, et puis c'est vous, hein, Jocelyne, oui, au début, vrai. Qui m'avez dit, moi, au début, j'ai vraiment eu du mal avec ce tutoiement-là.
C'est
pourquoi,
vrai.
D'ailleurs?
Ben, c'est une approche différente. Ça crée aussi une écriture différente parce qu'il y a toujours le S de la deuxième personne.
Ah oui.
Ça accroche l'œil.
Alors, le tu est venu de façon très instinctive.
Okay.
C'est-à-dire que j'avais le goût de m'adresser à elle. Et si j'avais écrit un roman au elle, donc elle, Suzanne, se promène, elle abandonne ses enfants, elle s'en va militer avec les Noirs dans l'Amérique des années 60.
Ouais.
Bon. C'était très détaché. Là, j'avais envie quelque part d'exister dans cette écriture-là. Puis le « tu » inspire
forcément.
Ou invite au « je ». C'est-à-dire que c'est moi qui m'adresse à elle. Donc, automatiquement, je suis impliquée dans cette adresse-là. Et ça fait que quelque part, on se rencontre finalement à travers ce livre-là.
T'sais. Ça a été un besoin pour vous d'écrire ce bouquin?
Oui, je pense que j'étais... au niveau créatif, dans ma vie, j'étais... rendue à me pencher sur ma propre histoire, ce qui n'était pas un besoin avant ça. C'est comme si j'avais écrit et réfléchi autant en cinéma qu'en littérature à Schlager Maisonneuve, les enfants que j'ai beaucoup côtoyés, qui m'ont beaucoup habité, puis donc j'ai fait le ring, et je voudrais qu'on m'efface.
C'est vrai que j'en ai pas parlé, d'ailleurs, j'avais prévu une longue, longue introduction, puis on est parti directement, parce que c'est vrai qu'on vous doit beaucoup de documentaires, beaucoup de longs-métrages aussi, je pense, bon, aux petits géants, au tout début, les petits princes des bidonvilles, ça a été formidable, les voix humaines, etc., et puis longs-métrages, alors bon, c'est vrai que je les avais pas évoqués, mais là, vous les évoquez, puis vous avez raison.
Donc, en fait, c'est comme si mon parcours personnel m'avait invité à sortir de mes zones de confort. Donc, Hochelaga, la Palestine aussi m'a beaucoup habité avec Inch'Allah. Mmh, puis j'avais écrit des nouvelles de voyage qui s'appellent Embrasser Yasser Arafat, donc des chroniques de voyage. Oui. Puis donc, après ça, j'ai eu des enfants, en fait. C'est ça qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des univers assez rough, assez bouleversants qui m'ont poussée à écrire et à faire des films sur ces sujets-là. Puis ensuite, j'ai eu 3 enfants de suite, et c'est très collé, en fait. Puis c'est ces enfants-là aussi qui m'ont poussée à me questionner, je pense, sur mon héritage, qui, quelque part, est quand même
c'est lourd.
Puissant.
Puissant, mais oui, c'est ça.
Volcanique, même, je dirais.
Oui, c'est
mais
lourd.
C'était des questions qui étaient présentes, mais qui ne m'avaient pas intéressée plus que ça jusqu'alors. Tu sais, je savais mon grand-père Marcel Barbeau, ma mère qui n'avait donc pas eu de parents. Mais à partir de... Ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que je m'étais peu interrogée sur de quoi j'hérite, moi, après ça. Puis c'est là, enceinte de mon troisième, donc qui était, je savais, une fille, j'avais eu envie de réfléchir à qui était là avant ma mère. Qui est la femme qui était là juste avant, qui l'a semée, elle, qui a permis qu'elle me sème et qui, moi, à mon tour, va semer une vie de jeune femme. De quoi j'ai hérité, puis qu'est-ce que je vais transmettre.
Vous en parliez avec votre maman?
Ben oui, il a fallu évidemment que...
Non, mais même avant d'écrire le livre.
Peu. Ouais. Avant d'écrire le livre, c'était un peu un tabou. On en parlait peu parce que c'est une blessure quand même, l'abandon, ça reste, hein, je pense, pour la vie.
D'ailleurs, c'est le chemin contraire. Hein. Votre grand-mère a fait 2 enfants, ensuite elle est partie et elle aussi, elle a bourlingué beaucoup. Elle aussi, elle a voyagé beaucoup. Et vous, finalement, c'est exactement le contraire. Vous
avez fait 3 enfants. C'est pas un hasard, je pense.
Non, c'est ça.
Ouais. Il y a quelque chose du retour du balancier qui dit, moi, je vais faire des enfants, je vais en faire beaucoup, je vais continuer de voyager. Et le livre se termine comme ça, d'ailleurs. Moi, je vais être libre ensemble, grand-maman.
C'est ça.
Je pense que ça se peut. Oui.
Et alors, vous nous faites traverser, parce que c'est en même temps un livre quasiment d'histoire, parce que, bon, par exemple, moi qui suis française d'origine, mais même si ça fait très longtemps que je suis là, bon, le refus global, j'en ai évidemment beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup lu sur le sujet, mais là, tout d'un coup, on est au milieu de tous ces gens, de ces Borduas, Riopel, Gauvreau, etc. D'ailleurs, on assiste même quasiment à l'écriture et à la signature de ce manifeste-là. Ça a dû être une recherche qui vous a aussi... qui a dû être complètement palpitante,
c'était
enfin.
C'était hyper stimulant, parce qu'il y avait justement rien de poussiéreux, rien d'historique, rien de folklorique. Moi, j'étais dans la jeunesse et l'effervescence de ces fous-là, tu sais, à cette époque-là. Ma grand-mère, elle débarque, elle était franco-ontarienne. Elle a la fougue et le guts de sortir de son milieu déjà, qui était relativement pauvre, grosse famille nombreuse. Elle prend le train, elle s'en va à Montréal. Elle bat Claude Gauvreau dans un concours d'art oratoire. Et Claude Gauvreau l'introduit à sa gang. Sa gang étant Borduas, Marcel Barbeau, Riopel, Muriel Guilbeault, Marcel Ferron. Donc, elle plonge là-dedans. Elle connaissait rien de tout ça.
Très, mais très intimidée, d'ailleurs. Elle est au début. Écoute, elle regarde ça. Elle dit, mais sur quoi je suis tombée?
Ben oui. Et là, c'est ça, son introduction un peu fulgurante à la vie artistique. Puis eux étaient des marginaux à cette époque-là. On est en pleine époque dupléciste. Le clergé est omniprésent. Oui. Et elle va participer à dire, on tourne la page de cette histoire-là, on veut autre chose.
T'sais. Et Duplessis, d'ailleurs, que vous appelez souvent Maurice. J'ai remarqué que souvent, vous utilisez les prénoms. Je ne sais pas si c'est voulu.
Momo.
Mon ami. C'est, vous savez, ça m'a fait penser, moi, à cette époque effervescente de Saint-Germain-des-Prés. okay, à Paris, oui, avec Boris Vian, mm-hmm. avec qui étaient tous ces créatifs là qui se ramassaient ensemble, les Gréco, les peintres, mm-hmm. et puis en tout cas je referme la parenthèse.
On
mais
on peut parler ça... ici au Québec, ça a peu été évoqué cette jeunesse là, tu sais, oui. on en parle un peu de Refus Global puis de cette époque là, mais ça a toujours l'air un peu noir et blanc, austère, très lointain, alors que c'était des jeunes fougueux dans la vingtaine qui avaient envie de changer la société, oui. ce qui existe encore aujourd'hui. Donc, j'avais aussi envie de ramener cette ébullition oui, de cette jeunesse un peu folle. Là.
Et je me suis demandé, à un moment donné, je vais sauter, vous allez voir, à la page 282, au moment de la mort de Bordua, qui meurt à Paris en 1960, vous écrivez et vous lui faites dire, tu lui en veux, donc... à Bordua, tu lui en veux de vous avoir laissé tomber, tu lui en veux de ne pas t'avoir choisi, de ne pas t'avoir retenu. Et alors, c'est surtout cette phrase que je retiens, moi. Tu lui en veux de t'avoir fait croire que vous étiez spéciaux dans une époque spéciale. Et je trouve que c'est tellement ça. Puis moi, je me suis pris une note, je me dis, est-ce que c'est un peu une justification de son départ?
À Suzanne?
Oui.
La désillusion?
Oui.
C'est une bonne question parce que j'ai pas la réponse, mais je pense qu'elle a couru toute sa vie après tout, en fait. C'est pas pour rien que ça s'appelle la femme qui fuit. Elle a fui sa famille, elle a laissé sa famille en plan pour aller s'accomplir. Je pense qu'elle avait soif de liberté. Elle était toute jeune aussi, elle était dans la vingtaine. Elle avait des grandes ambitions artistiques. Je pense qu'elle avait du talent. Mais même... après cette fuite-là, elle ne s'est pas accomplie artistiquement non plus. C'est comme si elle avait toujours été en marge de sa propre histoire. C'est comme
D'ailleurs, il y a une scène terrible, je trouve, quand elle est encore avec son mari, avec Barbeau, et qu'elle peint à un moment donné un oiseau. Et lui, il arrive le soir, et comme ils sont pauvres, ils sont en manque de toile, lui, il récupère la toile pour peindre par-dessus. Ça donne lieu à une page qui m'a tiré les larmes. J'ai trouvé ça tellement beau.
Ben, on parlait des femmes, de la condition des femmes.
Elle est gommée.
Hein.
Elle est littéralement gommée.
Les femmes artistes de cette époque, puis ceci dit, c'est pas complètement réglé non plus de nos jours. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais elles avaient très peu de voix, très peu de place. Là. Même au sein du groupe de Bordua. Là.
Et alors, cette femme-là, paf, elle décide de partir. Et là, je vais vous rendre le livre que j'ai entre les mains parce que je voudrais que vous nous en lisiez un extrait. C'est la page 219. Hein. Quand elle décide qu'elle va faire ses valises. D'ailleurs, ça, c'est plutôt à la fin de la page 218 où elle dit ce soir-là, tu annonces à Marcel que tu pars. Et là, je vous laisse ça parce que je voudrais que ce soit vous qui nous le livriez, cet extrait.
Je vais lire le moment de l'abandon, le moment où ma grand-mère Suzanne abandonne ma mère et mon oncle François. Il faut dire, c'est ça, donc, que le roman se déroule de la toute petite enfance de cette grand-mère-là jusqu'à sa mort. Donc, c'est vraiment sa vie. Puis, le moment que je vais lire, donc, 1er août 1952, c'est le moment qui a été le plus difficile pour moi à écrire. J'ai dû m'y reprendre à une centaine de fois parce que j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible pour une mère, même si je la condamne plus, parce que d'écrire ce roman-là m'a permis de me rapprocher d'elle beaucoup.
Vous lui avez pardonné?
Je l'ai pas pardonné, mais j'ai humanisé son geste, alors que pour moi, c'était monstrueux avant. Là, de m'être approchée d'elle, c'est redevenu une femme qui avait soif de liberté, qui s'est peut-être trompée, qui a peut-être fait les mauvais choix, mais qui était une femme qui me touche, puis une femme que quelque part, je comprends. Tu sais.
Oui. On va vous laisser lire votre extrait.
Alors, 1er août 1952. Tu réveilles les enfants avant le soleil. Marcel tremble en préparant un café noir. Du bout des mains, tu empiles les vêtements dans une petite valise. Tu les as lavés et repassés. Une robe fleurie, une salopette, une petite culotte blanche, un pyjama vert, un pyjama jaune, un pyjama bleu, des couches. Une valise organisée. Avant de la refermer, tu y déposes le petit chapeau de paille de mousse, celui qui protège son front du soleil, son petit front bombé dans lequel sommeillent des bourgeons d'idées que tu ne verras pas se déployer. Assise à côté de toi, elle suit tes gestes du regard. Elle pourrait te demander pourquoi. Elle pourrait te demander où elle s'en va. Mais elle ne le fait pas, parce qu'elle t'aime. Tu lui fais dos, Malgré tout, elle te transperce. Alors tu claques la valise, l'empoignes et sors. Tu ne prends pas la main de Mousse. Sa paume est un gouffre embrumé dans lequel tu ne sombres pas. Marcel emporte François dans ses bras et vous quittez la maison familiale. Dehors, il fait mauve. Le jour est beau. Il aurait dû pleuvoir. Vous vous postez en bordure de la route, devant rien. Vous attendez l'autobus et tu es terrifié quand tu le vois arriver.
Ça vous touche encore, hein?
Oui, ça me touche. Ça me touche parce que ils avaient l'âge de qu'ont mes enfants.
Bien
puis
sûr.
J'essaie de me mettre dans la peau de cette femme-là. Je me dis, elle devait être vraiment au bord du gouffre. Elle n'avait pas d'autre choix parce que. Mais elle s'en est d'ailleurs jamais remis. Hein. C'est...
Finalement, bien sûr. D'ailleurs, ça donne lieu aussi à des scènes, hein, Jocelyne, terribles, quand elle téléphone souvent.
Mmh. Oui, mais sans parler.
Sans parler, ou alors quand elle est à Londres, je crois, et qu'il y a des insultes. Et lorsque vous parvenez à mélanger ces espèces de graffitis, comme Motherfucker, justement, qu'on retrouve dans le... Et quand elle téléphone à sa petite, et sa petite qui est toujours heureuse d'entendre sa maman.
Ben oui, une mère reste une mère.
Bien sûr, mais en tout cas, ça donne vraiment lieu à des... Mais elle était certainement une très bonne peintre, finalement. Elle aurait certainement pu se faire connaître. Ben, quoi qu'elle en a eu une peinture. Ah, la belle scène avec Pollock. Quand elle va voler la peinture noire de Pollock, elle est à New York à ce moment-là.
Oui, elle partage un atelier avec plein de monde, dont Pollock. Puis il lui manque de la peinture, donc elle s'en va lui piquer un peu
pour finir. Mais finalement, c'est un tableau qui est exposé, ça.
Oui, c'est un tableau qui est exposé.
Et puis, elle était reconnue comme une poétesse, quand même.
Oui, alors ça, c'est fou, parce qu'elle n'avait jamais publié. Elle avait écrit... elle était toute jeune, dans la vingtaine. Puis, Bordua avait... mis son manuscrit qui s'appelle « Les aurores fulminantes » dans ses papiers, puis ça a été redécouvert à sa mort et donc publié quand Suzanne avait 80 ans. C'est ce qui fait que nous, on a découvert ce manuscrit-là très tard, en fait, puis c'est ses seuls poèmes qui ont été publiés, finalement.
Et moi, quand même, Anaïs Barbeau-Lavalette, je trouve que vous avez hérité un peu du talent de poétesse de votre grand-mère. Moi, je trouve qu'il y a plein de moments qui sont remplis de poésie dans ce livre-là, dont je vous rappelle le titre, La femme qui fuit. Et vous avez eu deux bonnes nouvelles récemment. Vous êtes finaliste au prix des libraires. Vous êtes aussi finaliste au prix France-Québec.
C'est super, ouais, c'est
bon. Wow! Ben oui, absolument. Alors écoutez, on est vraiment très, très touchés. Jocelyne Allary, qui a adoré votre livre,
oui,
comme moi-même.
J'ai beaucoup apprécié. Et puis de rencontrer Anaïs, ça a été un plaisir.
Ça va être un plaisir, c'est ça.
Franchement.
Et on va vous souhaiter bon vent avec vos trois petits-enfants. Vous allez souhaiter un bon gros bonjour à Émile Proucloutier, qui est quelqu'un que j'adore, dont j'adore la musique et les chansons, dites-le lui.
C'est noté.
D'ailleurs, j'ai assez hâte qu'il écrive un bouquin, comme ça il pourrait venir ici aussi. Alors dites-lui qu'il faut qu'il se mette à la plume. Anaïs Barbeau-Lavalette, merci beaucoup.
Merci à vous, ça m'a fait plaisir, vraiment.
Vraiment, à nous aussi. Et n'oubliez pas, La femme qui fuit, disponible au SQLA. Et c'est gratuitement. Profitez-en. Des livres plein les oreilles et une seconde partie qui commence en chanson.
Petit à petit, tout s'effiloche, tout finit. Je ne reçois plus que des taloches de ma vie. J'ai le cœur qui fait la gueule, mais je pédale encore tout seul. Je me retrouve au fond de l'eau, à vélo. J'ai sonné portes et portes, téléphone. Pour moi, les maisons sont mortes, plus personne. Quand je fais la queue, je suis tranquille. Je choisis la mauvaise file. Comme ça, j'ai affaire, j'attends, j'ai tout le temps. Mais demain, je recommence. Mais demain, je vais retrouver ma chance, c'est certain. J'ai gardé comme une flamme qui éclaire un peu mon âme. J'ai craqué une allumette dans ma tête. Adieu ma chance, adieu destin, je recommence. Et demain reviendra le matin. Je ne suis plus depuis une paye dans le cou. Toutes ces pubs quand je me réveille, ça me rend fou. Je ne sais plus ce qui se trafique en politique, en musique. Les nouvelles en mal, en bien, ça me dit rien. Je n'ai plus de pièces de rechange pour rouler. Maintenant tout le temps ça change, c'est le progrès. Je l'ai cassé ma courroie, mon klaxon reste sans voix. Je n'ai même plus ma voix de garage au chauvage. Mais demain je recommence, mais demain je repars en ambulance à Cochin. Ils vont me guérir bien vite, après quoi je prendrai la fuite. À pied, à cheval, à Bécane, à Sainte-Anne. Adieu ma chance, adieu destin. Je recommence et demain reviendra le matin. Je ne vous entends plus mes proches, mes copains. Vous avez vos femmes, vos mioches, je le sais bien. Je ne vous entends plus les gars, dans ma tête y a du dégât. Vous ne me reconnaissez plus, c'est bien vu. Où es-tu ma douce, ma belle, reviens-moi. Toi qui me donnais des ailes autrefois. Mon cœur est cuit désormais, après toi je peux plus aimer. Je vais tirer un coup en l'air, c'est moins cher. Mais demain je recommence, mais demain je retrouverai la romance des câlins. Il fera chaud en plein décembre, une fille dans ma chambre, un lit à deux, jamais froid, bien étroit. Bonjour ma chance, bonjour destin. Je recommence et demain reviendra le matin. Mais demain je recommence, mais demain je vais retrouver ma chance, c'est certain. J'ai gardé comme une flamme qui éclaire un peu mon âme. J'ai craqué une allumette dans ma tête.
Guy Béard, demain je recommence. Je recommence et ce n'est pas par hasard si j'ai choisi cette chanson-là parce que avec Jocelyne Allary, bénévole, qui est là pour une nouvelle fois. Bonjour Jocelyne.
Bonjour, c'est un plaisir de toujours venir vous parler des belles lectures que j'ai faites.
Des belles lectures. Oui, hein. Et Jocelyne, j'ai choisi cette chanson-là parce qu'il sera question d'un recommencement dans le livre que vous nous proposez aujourd'hui. Oui. Je vous laisse nous le présenter.
Ben, écoutez, il s'agit d'une deuxième vie. Qui, au fond, représente deux tomes. Alors, j'en donne double ration aujourd'hui.
D'accord.
Une deuxième vie, c'est effectivement l'histoire d'un changement de destin. Voilà. Le premier tome, qui s'appelle « Sous le soleil de mes nuits », j'ai pas nommé l'auteur encore, pardon.
Oui.
Alors, c'est Mylène Gilbert-Dumas.
Oui, en deux mots,
Gilbert et Dumas. Et c'est une dame qui habite Sherbrooke. C'est une Québécoise d'origine,
d'accord.
Donc qui habite Sherbrooke. Aujourd'hui, elle a plus d'une vingtaine de romans à son actif.
À son actif.
Et en fait, il y a même de la littérature pour jeunesse de cette dame.
Ah oui,
effectivement. Okay. Tout ça pour vous raconter qu'une deuxième vie, c'est effectivement deux tomes qui... Le premier s'appelle « Sous le soleil de mes nuits » et le second « Sur la glace du fleuve ». L'ensemble de l'histoire se passe au Yukon. Mais au départ, la jeune protagoniste quitte le Québec parce qu'elle y vit... au départ, elle a une vie encombrée, étouffante, très matérialiste, avec des dettes et tout ça. Ce qui fait que finalement, avec son conjoint, il décide de tout balancer et d'essayer de refaire une nouvelle... tourner une page et d'aller se refaire un peu au Yukon, où effectivement, les salaires sont très élevés, la vie sociale est plus restreinte. Alors, effectivement, ils vont vers là-bas en espérant se refaire financièrement.
Ouais.
Et finalement, quand elle arrive là-bas, elle se rend compte à quel point la vie est agréable, malgré les difficultés climatiques, finalement. Mais au fond, la vie sociale est simple et spontané, et la nature. La nature la comble. Ah, oui. Alors, c'est là où elle trouve vraiment son bien-être. Et puis, elle trouve que c'est un mode de vie qui est plus près de la nature, donc plus satisfaisant. Alors, à un moment donné, à la fin du premier tome, son mari va décider de rentrer au Québec. Lui, il trouve que c'est trop ardu, trop difficile. Oui, ça lui manque. Alors, mais elle fait le choix de rester au Yukon. Et là, elle devient une passionnée des chiens de traîneau et des courses dans le Grand Nord. Et là, c'est ça devient une motivation dans sa vie. Ce qui fait que le deuxième tome, Sur la glace du fleuve, arrivera 3 ans plus tard. Et là, elle est devenue mocheuse. Alors, mocheuse, vous savez ce que c'est? C'est le meneur de chien de traîneau.
Ouais, c'est ça.
En fait, c'est un terme anglais, mocheur, qui est une déformation du commandement français « marche ». Alors là, c'est mocheur, le meneur du chien de traîneau. Et au féminin, en français, on dit mocheuse. Alors, Elisabeth est devenue mocheuse. Elle adore s'occuper des chiens. Et elle monte tranquillement son propre...
sa propre meute?
Oui, sa propre... Voilà, c'est une meute, c'est vrai. Et là, elle rêve, pour ses 40 ans, de faire la fameuse course qui s'appelle la Yukon Quest, qui est 1600 km dans des conditions très difficiles.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. ils n'ont pas d'enfant, du tout.
Non, elle n'aura pas d'enfant. Il y a un personnage, à un moment donné, qui arrive, qui est son neveu, un ado, qui va se joindre... qui échoue chez elle à cause d'un drame familial qui est arrivé au Québec. Alors, finalement, il arrive chez elle. Et là, elle va, l'accueillir, mais les débuts sont difficiles parce qu'il n'est pas là par choix. Alors, ce qui va compliquer un petit peu les choses.
D'accord.
Mais je trouve que c'était une histoire quand même très pleine d'humanité. Ouais. Voilà, c'est ça.
L'écriture?
Oh, écoutez, c'est bien écrit, c'est pas ronflant, c'est simple, mais ça transmet vraiment un bel amour de la nature, des chiens, des relations humaines. Il y a des pointes d'humour qui sont fort agréables. Elisabeth a quelques amoureux, et à un moment donné, celui qui va devenir l'homme de sa vie, c'est un franco-manitobain, si je me souviens bien, et il est plein d'humour simple, terre à terre. Alors, c'est très agréable pour ça aussi, ça détend l'atmosphère, ça... Oui, les conditions de vie sont difficiles. Au fond, on s'aperçoit que tout est simple. Bon, on répare les manteaux au duct tape.
Oui, c'est vrai. Oui.
Mais même si c'est pas tout rose, on s'aperçoit qu'avec quand on a du cœur, on peut surmonter beaucoup de difficultés. Et puis, l'auteur démontre que les passions peuvent changer une vie. Voilà, c'est à peu près ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'emballant.
Oui, est-ce que vous avez un petit extrait à nous lire?
Oui, bien sûr. Ah, j'aimerais ça. C'est vrai.
Alors, je vous rappelle que c'est Jocelyne Allary qui est là, qui est d'ailleurs lectrice elle-même bénévole ici chez Vues et Voix. Et donc, vous avez lu ce livre-là aussi?
Ah oui, le deuxième tome, c'est moi qui en ai fait la lecture, l'enregistrement.
Et c'est elle qui nous présente ce livre qui s'appelle « Une deuxième vie » de Mylène et Gilbert Dumas, dont voici un extrait qu'elle va nous lire.
En fait, c'est un extrait qui est choisi pendant la course. Voyez-vous, elle fait la Yukon Quest. Et là, il y a un moment d'arrêt. Alors, elle se dit... attendez un peu, il faut que je retrouve le bon passage. Oui, OK. Une étrange paix l'envahit. Depuis le début, elle avait eu peur pour pas grand-chose, finalement. La course s'avérait éprouvante. Personne ne disait le contraire. Sereine, elle chercha des yeux les deux traîneaux, mais ne les vit plus. Ils avaient disparu dans un méandre du ruisseau. Un corbeau croassa. Élisabeth leva la tête et, du coup, huma l'air pur du Grand Nord, auquel se mêlait l'odeur du feu de camp qui réchauffait son équipe. Il n'y avait pas de mots pour dire à quel point elle aimait ce qu'elle était en train d'accomplir, malgré les difficultés, malgré les douleurs aux doigts et les orteils gelés. Il suffisait d'un bon feu, de neige fondue où on aurait ajouté du café instantané. Un sac de couchage, des vêtements chauds, de bons outils. Une ration réhydratée et réchauffée pouvait la sustenter pendant quelques heures. Quant aux chiens, le traîneau contenait tout ce dont ils avaient besoin. La réalité n'était pas aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. Même que cette solitude, loin du monde civilisé, loin des commodités de la vie moderne, loin du travail, des attentes et des responsabilités, avait quelque chose d'euphorisant. Si quelqu'un lui avait demandé comment elle voulait vivre le reste de sa vie, elle aurait répondu « exactement comme maintenant ». Elle n'aurait rien changé. Voilà, ça vous donne un peu... Alors, effectivement, ça vous donne une idée de la sérénité qu'on veut dégager, l'amour des chiens, la nature.
Oui.
C'est un beau divertissement, c'est dépaysant. Elle communique effectivement le vertige des grands espaces. Et puis, la beauté, la sérénité de la nature en hiver. La force du blizzard, mais c'est dans une histoire bien équilibrée entre une vie quotidienne et le dépassement quand même de ces personnages.
Et est-ce qu'on attend une suite? Est-ce que ça, est-ce qu'on nous laisse sur une patte?
Normalement, non. Je pense que effectivement, c'est les deux tomes forment un ensemble parce que la finale du deuxième tome ouvre sur des belles perspectives d'avenir.
Ah bon?
Elisabeth, à la fin du deuxième tome, a fondé son entreprise d'accueil touristique avec son amoureux Gabriel. Le neveu, qui était un ado revêche, s'est trouvé aussi la passion auprès des chiens de traîneau. Il a une famille maintenant et une maturité, je crois, qui lui promet de devenir quelqu'un de fort agréable. Alors,
tout est bien qui finit bien.
Oui, je vous dirais que c'est une finale, finalement. Et c'est un roman sur la liberté.
Oui. Hein.
Oui, je pense que les grands espaces, on respire à fond.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, 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 Jocelyne. Encore une fois, d'ailleurs, on parlait de liberté un petit peu plus tôt, en première partie, avec Anaïs Barbeau-Lavalette.
Oui. Mais là aussi, c'est une femme qui s'assume.
Voilà, quête de liberté et qui finit, alors que par contre, du côté de Suzanne Meloche, elle n'a pas réussi grand-chose.
Non, mais je pense que c'est une évolution.
C'était l'époque.
Alors celle-ci, l'Élisabeth de Madame Gilbert Dumas est beaucoup plus moderne et, elle s'assume beaucoup mieux.
Exactement.
Voilà.
Et surtout, on laisse aux femmes une place beaucoup plus importante qu'à l'époque de Madame Suzanne Meloche et du manifeste du refus global. Alors, une deuxième vie de Mylène Gilbert Dumas qui nous était présentée par Jocelyne Allary. Merci.
Ça a été un plaisir.
Jocelyne, et vous toutes et vous tous qui nous écoutez, vous serez sûrement heureux, du moins je l'espère, d'apprendre que j'essaie tant bien que mal, mais ça va être tant bien de vous concocter pour la semaine prochaine une émission qui sera toute spéciale et qui va graviter autour de la lecture. Parce que, évidemment, la lecture ici, c'est essentiel. Celle que nous nous faisons à voix basse, mais aussi à voix haute pour les usagers du SQLA ou de l'INCA qui nous écoutent. Et là, donc, je vais avoir plusieurs invités. D'abord, je vais recevoir Yves Nadon. Yves Nadon, qui est un diplômé de l'Université de Sherbrooke en enseignement. Il a eu son diplôme en 79. Il a littéralement adopté l'école primaire Notre-Dame du Rosaire de Sherbrooke. Et depuis 13 ans, il a trouvé une équipe très, très dynamique, ainsi qu'un lieu tout désigné pour transmettre cette passion pour la lecture qui ne cesse, le bonhomme, de l'animer. C'est pour ça que je l'ai invité. Les mots, Yves Nadon en raffole, écrit Catherine Schlager. Je ne sais plus dans quel journal elle avait écrit cet article sur cet homme que j'ai bien hâte de rencontrer en personne. Et cet amour des mots a fait en sorte qu'il a poussé l'audace jusqu'à réaménager sa classe de première année à cette école Notre-Dame du Rosaire pour y favoriser quoi ? La lecture. Alors on y retrouve une mezzanine qu'il a construite de ses mains, où ses élèves peuvent aller lire en toute tranquillité. Dans tous les recoins de cette petite classe-là, les livres s'empilent par centaines et les résultats sont plus que probants puisque chaque année, les élèves sous sa gouverne ont ainsi pris goût à la lecture. Vous comprenez pourquoi j'avais hâte de pouvoir parler à cet homme qui explique « Lire et écrire est la première chose qu'ils apprennent en première année. Les progrès sont énormes puisqu'à leur arrivée, ils ne savent ni l'un ni l'autre. » Je leur explique que le savoir est important et qu'ils doivent travailler fort. J'essaie d'avoir une classe qui est intelligente, explique M. Nadon. Entre deux cours à l'école Notre-Dame du Rosaire et à l'Université de Sherbrooke, il consacre une importante partie de ses moments de loisirs à la lecture en dirigeant lui-même une maison d'édition. C'est la maison d'édition Les 400 coups. Et il participe, bon an mal an, à l'organisation du Salon du Livre de Montréal. Il faut insister davantage sur la lecture, de dire Monsieur Nadon, parce que si les enfants trouvent le Nintendo plus intéressant, on a tout un problème, et si les gens ne lisent pas, ce n'est qu'un malentendu. Alors j'ai très très hâte d'avoir cet homme à qui j'ai demandé de venir aussi nous parler d'un livre. Quel était pour lui un livre vraiment important, essentiel? Il a choisi... est-ce une surprise, comme un roman de Daniel Pénac. Petit résumé, les droits imprescriptibles du lecteur d'écrire Daniel Pénac. On a le droit de ne pas lire, on a le droit de sauter des pages, on a le droit de ne pas finir un livre, on a le droit de relire un livre, on a le droit de lire n'importe quoi. On a le droit au bovarisme, autrement dit la maladie textuellement transmissible. On a le droit de lire n'importe où. On a le droit de grappiller, le droit de lire à haute voix et le droit de nous taire. Alors Yves Nadon, la semaine prochaine, il ne sera pas tout seul. J'ai aussi invité Marie Lalande, qui est une de mes collaboratrices, le matin à l'émission Les Voix de Service. Elle aussi adore tout ce qui est lecture, éducation. Elle connaît bien d'ailleurs Monsieur Yves Nadon. Il faut que je vous fasse une confidence. C'est elle qui m'a dit un jour, tu devrais inviter Yves Nadon. Difficile de ne pas donc inviter aussi Marie Lalande, qui elle nous parlera d'un livre qu'elle adore en ce moment, qu'elle dévore, et ça s'appelle « Réparer les vivants » de Mélisse de Kerangal, qui est un livre qu'on ne peut pas trouver au SQLA, mais bien à l'INCA. Et puis, je me suis dit qu'une émission comme celle-là ne serait pas complète si je parvenais à recevoir, et j'attends confirmation encore au moment où je vous parle, Louise Comtois. Qui est Louise Comtois? Cette femme-là a créé Tactilivre. Ça dépend de la Fondation des aveugles du Québec, la FAQ. Et la FAQ s'est associée à un projet souhaitant favoriser l'éveil à la lecture tactile pour les enfants aveugles de 0 à 5 ans. Alors, je trouve que ça va faire un complément assez extraordinaire à cette émission « Des livres plein les oreilles ». Ça, je vous rappelle que c'est pour la semaine prochaine. Ça fait beaucoup de monde dans mon studio, alors j'espère que tout le monde sera bien présent. Allez, on passe maintenant à la chronique des nouvelles et des livres. Des nouvelles et des livres. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler il y a quelque temps, il y avait un musicien qui s'appelle Ian Kelly qui s'était fait dérober dans sa voiture deux disques durs qui contenaient les pistes de son nouvel album qui est paru en janvier. Finalement, grâce aux réseaux sociaux, on a retrouvé les disques durs. Ben, je ne sais pas si c'est paru en janvier, mais en tout cas, ça s'est passé en janvier. Eh bien, il est arrivé la même chose à un auteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est quelqu'un, ça m'a donné envie de l'inviter, c'est Bruno Hébert. Bruno Hébert, on lui a volé son ordinateur à sa résidence d'écriture de contre-cœur. Ça, c'est sur les bords du fleuve Saint-Laurent. Et c'est un endroit où il avoue n'avoir jamais verrouillé les portes. Eh bien, un jour, c'est arrivé, il s'est fait cambrioler et il n'avait qu'un seul ordinateur, pas de disque dur, et tout son futur roman était là, c'était la seule copie. Inutile de vous dire qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et bien là encore, l'aventure de Bruno Hébert s'est finalement très bien terminée. Il a récupéré son ordinateur et c'est sur Facebook qu'un ami de l'auteur a été contacté par un jeune homme de Montréal qui a expliqué avoir acheté l'ordinateur sans savoir qu'il avait été volé. Bon, en ouvrant l'ordinateur, le jeune homme serait tombé sur la page Facebook de Bruno Hébert et sur son message dans lequel il racontait sa mésaventure. Il a été joint au téléphone il y a quelques semaines, l'auteur qui s'est finalement rendu mercredi, imaginez, dans un appartement du quartier Saint-Michel pour récupérer son ordinateur et tout était intact. Je tiens à remercier cette personne qui m'a rendu mon portable. Encore une fois, merci à tous, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Ça m'a donné envie de vous dire que si vous ne connaissez pas encore l'écriture de Bruno Hébert, courez chercher ces livres-là. Ce sont trois livres absolument remarquables et délicieux. Il y a d'abord Alice court après René. Ça, c'est... Nous sommes en septembre 69. Il y a le petit Léon Doré qui entre en cinquième année à l'école Saint-Mathieu. Il a de bonnes raisons d'être un brin déprimé parce que l'école, c'est vraiment pas fait pour lui. Parce qu'en plus, il y a un Thibault Lefebvre et un raton, un trio infernal qui s'est juré de lui casser la gueule. Mais c'est une écriture formidable, vraiment. Il y a C'est pas moi, je le jure, qui avait donné lieu à un film de Falardeau, je pense. Et là, c'est Léon encore qui raconte l'été de ses 10 ans. L'été du départ de sa mère pour la Grèce, tiens, donc encore là. Il se sent abandonné, incompris. On parle d'un abandon comme en première partie de cette émission. Et puis, il y a aussi, disponible au SQLA, toujours de Bruno Hébert, Le jeu de l'épave. Ça, c'est un rendez-vous avec un écrivain qui est en quarantaine, qui est dévoré par le syndrome de la fuite, écorché par les faux brillants de la vie, qui se lance dans un voyage au bout de sa nuit. Une espèce de folle virée au Mexique pour tenter d'écrire un roman sur Port-au-Prince, avec en poche quelques milliers de dollars et trois chemises. Alors voilà, trois romans à découvrir de Bruno Hébert en attendant de découvrir celui qu'il s'est fait voler, mais qu'il a, grâce à Dieu, récupéré. Alors pour finir cette émission, comme toutes les semaines, j'ai à vous proposer quelques titres en rafale, comme par exemple de George Saunders, S-A-U-N-D-E-R-S, il y a ce 10 décembre, 10 comme le chiffre 10, 10 décembre. Il est question d'Alison, une fille très populaire dans un lycée qui se fait agresser devant chez elle. Et à la fenêtre, il y a un garçon qui est aussi un camarade, un type très introverti, qui est aussi son voisin et qui hésite à la secourir. Il se pose cette question, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Et dans un email bourré de jargon, en tout cas c'est un... Je ne vous en dis pas plus, on est dans cette ambiance-là. Est-ce que j'aurais dû la sauver? Alors ça, c'est une nouvelle, parce qu'il y en a 10. Comme par exemple, enfermé dans un laboratoire, un repris de justice se voit injecter une drogue commandant tous ses désirs, celui d'aimer, celui de procréer ou celui de tuer. Alors 10 nouvelles, comme 10 décembre de George Saunders, à lire et à déguster diversion acide de l'Amérique contemporaine et de ses habitants. François parmi les loups de Marco Politi. Et oui, il s'agit bien du pape François, lui qui, en quelques mois, en quelques années, a brisé l'image d'une église toute puissante, qui a refusé la pompe impériale, comme on dit, proche des angoisses des hommes et des femmes de notre temps. Un François qui ose exprimer tendresse et compassion, ce qui lui donne un rayonnement mondial assez considérable. Mais au Vatican, il y a des résistances qui croissent à cause de son programme de refondation de l'Église. L'impératif d'exemplarité des cardinaux et évêques incités à être, par exemple, pauvres parmi les pauvres. L'intégration des femmes aux instances de décision. L'approche nouvelle pour les divorcés et les homosexuels. La remise en ordre des finances vaticanes. Alors, c'est une très audacieuse révolution qui a été initiée avec beaucoup d'autorité par le pape François. Mais, le temps est compté parce que ce pape est aussi quasi octogénaire. Alors, François parmi les loups révèle les dessous du conclave, décrit les nombreuses résistances de la curie et de l'épiscopat, surtout italien. Et puis, le combat courageux et dangereux du pape contre la mafia. La chasse intraitable à l'argent sale, c'est tout ça le pape François, et c'est à découvrir dans ce livre « François parmi les loups » de Marco Politi, P-O-L-I-T-I. Glose, G-L-O-S-E, c'est de Juan José Saer, Saer, S-A-E-R. Un petit résumé. Un matin de printemps, deux amis, l'adolescent et le mathématicien, qui marchent dans la rue. Le premier raconte au second une soirée d'anniversaire à laquelle aucun des deux n'a assisté, mais dont le récit lui a été fait par un invité rencontré la veille. Et au cours de la promenade, il croise une autre connaissance, le journaliste, qui donne sa propre version des faits. Donc voyez-vous, une soirée, et puis des versions... des faits d'une soirée à laquelle finalement personne n'a participé mais que tout le monde raconte. C'est un peu le fondement, la base de ce livre, un roman inclassable, dit un lecteur, formidablement construit, qui m'en a davantage appris sur ce que nous sommes que 20 volumes de philosophie. C'est un livre que j'essaie de faire lire à tout le monde, dit ce lecteur. Tous ceux qui ont suivi mon conseil sont sortis de cette lecture aussi euphorique que moi. Et incrédule, comment expliquer que Glose ce roman parfait ne soit pas déjà un classique. Glose comme G-L-O-S-E de Juan José Saer, S-A-E-R. L'histoire secrète de la chute du mur de Berlin de Michel Meyer. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 à Berlin, le monde a changé de visage, le mur de la honte s'est effondré sans combat et la guerre froide ainsi de s'achever et l'URSS d'exploser. Alors c'est un livre qui raconte les manœuvres, les tractations, les intrigues qui ont mené à ce basculement. Et pourquoi l'URSS n'a-t-elle pas réagi comme par le passé ? Quelle a été l'action ou l'inaction de Mikhail Gorbatchev ? Contre quelle redoutable conjuration de cavaliers de l'apocalypse une Raïssa Gorbatcheva, par exemple, a-t-elle dû lutter pour retenir le bras armé du maître du Kremlin ? Sur le devant de la scène ou en coulisses, on se demande quel a vraiment été le rôle de chacun des acteurs dans la nuit du 9 au 10 novembre, le monde, lorsque le monde à Berlin a changé de visage. C'est fait à la manière d'un thriller, d'une enquête historique inédite qui révèle la partie de poker stratégique d'une rare perversité qui, du printemps 87 à l'automne 90, a mobilisé les grands fauves de la géopolitique et du renseignement soviétique, allemand et anglo-saxon. Alors voilà pour Histoire secrète de la chute du mur de Berlin de Michel Meyer. Il me reste 45 secondes, le temps peut-être du petit dernier d'Isabelle Allende. Ça s'appelle Le jeu de Ripper, R-I-P-P-E-R. Où on évoque beaucoup les femmes de la famille Jackson qui sont un petit peu comme le jour et la nuit. Je n'ai pas trop le temps de vous en parler. Si vous aimez beaucoup la littérature d'Isabelle Allende, vous serez peut-être un petit peu déçus. J'ai entendu beaucoup de gens qui avaient adoré ses livres et qui là se sont montrés déçus, mais on ne sait jamais après tout. Le jeu de Ripper d'Isabelle Allende. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission. Je voudrais remercier mes invités Huguette Roussel, Anaïs Barbeau-Lavalette et Jocelyne Allary. C'était Claude Mathilde Seille au micro de Canal M qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Des livres plein les oreilles.